Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour oreilles curieuses. Sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La voix des sillons, numéro 83. Genre, rock psychédélique, rock, plus un malheureux dérapage vers le Britpop, histoire de vendre un peu de disques. Époque de 1989 à 2009, 20 ans entrecoupés de périodes d'interruption plus ou moins longues et souvent dans la douleur. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, c'est le typique groupe dont tu as chanté, en voiture ou sifflé, sous la douche, leur titre le plus connu 1000 fois, sans jamais vraiment retenir leur nom, je dirais donc 6. Artiste, The Verve.
Ah non, pas ça, pas de pub.
Alors, pas de panique, ce n'est pas de la pub pour mon livre. Il se trouve que je n'ai pas de jingle spécifique aux annonces de changement dans le podcast, donc j'utilise celui-là. Prends bien note, durant le mois d'août, je vais lever un peu le pied et passer à un rythme d'un unique épisode par semaine qui sera publié tous les jeudis. Mais promis juré, croix de bois, croix de fer, si je mange, vais en enfer. Dès le 1er septembre, je retourne aux galères. Je commence souvent les épisodes en te donnant des nouvelles de cette particulière relation épistolaire que j'entretiens avec les auditeurs tristes. Surtout, du reste, avec les râleurs qui pestent contre mes choix musicaux ou me signalent des erreurs dans le récit que je fais des artistes. Mais faut pas croire, je reçois aussi de fort jolies missives. Écoute-moi plutôt celle-ci. Ouvrez les guillemets. Ce petit message pour te remercier pour ton podcast que je viens de découvrir et qui m'a déjà filé plusieurs fois les larmes aux yeux, mais aussi le sourire, et ravivé tellement de souvenirs. Je tenais à te faire part de mon émotion à l'écoute de tes textes simples, sans pathos et pourtant drôles, subtils et touchants. Fermez-les. Waouh, hé, elle est pas belle la vie? C'est juste signé d'un S, j'ignore donc qui m'écrit de la sorte, mais j'ai quand même décidé d'imprimer ce mail et de le mettre sous cloche à côté de ce petit Elvis en plastique articulé qui dandine du bassin sous l'effet de la lumière. À toutes fins utiles, oui oui, tu peux te sentir visé, je te rappelle l'adresse mail du podcast contact@lavoixdessillons.com au cas que. Encore mieux, tu peux poster tes félicitations sur la plateforme de podcast que tu utilises. Certaines acceptent les commentaires, enfin les bons. Et donc, The Verve. The Verve est un cas dans l'industrie du disque. Beaucoup de bonne musique, sinon la voix des sillons n'en parlerait pas. Malheureusement, et également beaucoup de grosses conneries. Tu vas voir, prépare les mouchoirs. Car s'ils ont eu dans leur histoire un vaste auditoire dans bien des territoires, fait la foire et connu la gloire, trop souvent, ces bonnes poires n'ont eu que des pourboires et beaucoup de déboires. Waouh, pas mal celle-là non plus. J'adore faire le con avec les terminaisons. D'abord, au tout début, ils se sont choisis un nom, Verve, alors que c'était celui d'un label de jazz aux États-Unis assez connu, qui forcément a apprécié moyen l'appropriation indue et s'est plaint de la chose auprès de qui de droit, c'est-à-dire des membres du groupe. Pour éviter de grosses embrouilles, ceux-ci ont simplement rajouté The devant Verve, le groupe devenant, tu l'as deviné, j'aime quand tu fais gaffe à ce que je dis, The Verve. Alors décharge, on parle d'une époque pré-internet, 1989 exactement, c'est-à-dire sans les facilités qu'offre aujourd'hui Google pour savoir si un nom est libre ou s'il est pris, vérifier que c'est pour une activité qui n'a rien à voir avec la musique. Et ainsi éviter de longs procès ou des gros chèques. Car la liste des groupes qui se sont fait rattraper est longue comme un jour sans rock. Le plus célèbre d'entre eux n'étant autre que Nirvana, qui a dû payer 100 000 dollars à un petit groupe anglais du même nom, auteur de 5 albums de rock progressif entre 67 et 73. Ou encore les anciens membres de Rage Against the Machine, qui sont partis monter Civilian avant de se rebaptiser Audioslave, après avoir vu que Civilian était déjà pris. Sauf que Audioslave aussi, c'est ballot. Pumpa, 30 000 dollars. Après, il y a ceux qui ont dû rajouter un suffixe pour se différencier à l'étranger d'un groupe local. Par exemple, The Charlatans devenait The Charlatans UK dès lors qu'ils attaquaient le marché américain. Et c'est également le cas de Wham, qui s'appelait Wham UK pour éviter de froisser un combo de Nashville. Et le Suède, cet autre groupe de Britpop qui devenait Suède UK en raison d'une chanteuse yankee du même nom, seulement connue des passagers des croisières pendant lesquels elle bassinait les retraités à chemise hawaïenne de Music Lounge à deux balles. La vie du Jones qui se lance dans le doux monde du rock'n'roll n'est pas facile. Pour The Verve, musicalement, ça commence pourtant plutôt bien. En 1992, soit 3 ans quand même après leur formation, on se demande ce qu'ils avaient bien pu faire jusque-là, ils publient un premier single, All in the Mind, qui offre un gros son rock psychédélique du plus bel effet, aidé en cela par la voix calme de Richard Ashcroft et la guitare pleine d'écho et de réverb de Nick McCabe. All in the Mind monte directement sur la première marche du podium des charts indé. Malheureusement, et ça arrive même dans les meilleurs pays, le morceau ne sort pas de cette niche et ne vend rien ou peu s'en faut. All in the Mind. Dans la foulée, ils sortent 2 nouveaux singles, She's a Superstar et Gravity Grave, qui connaissent une fin similaire. Ces 2 derniers morceaux sentent les grosses cigarettes qui font rire et les pastilles qui font parler à toute vitesse. En revanche, ils semblent n'avoir rien trouvé à prendre pour faire des grosses ventes. En 1993 sort leur premier album, Storm in the Heaven, et les déboires commencent vraiment. Le disque est produit par un authentique fan du groupe, John Leckie, ancien ingénieur du son des studios Abbey Road, qui a eu l'occasion de travailler pour des gros du secteur comme les Pink Floyd et 1 ou 2 gnangnans de Liverpool séparément, avant de devenir producteur pour les Stone Roses et Radiohead entre autres. Un gars a priori avec une oreille assez pointue, dirais-je. Pourtant, ça n'empêche pas Storm in the Heaven d'être un désastre commercial, malgré la décision audacieuse de ne pas inclure les 3 singles foireux déjà mentionnés. Les sessions d'enregistrement sont compliquées, les musiciens n'étant visiblement éveillés qu'en pleine nuit et sous l'emprise de tout ce qui leur passe sous le nez. Les chansons sont influencées par un patchwork de groupes et d'artistes, de Steely Dan à Cocteau Twins, en passant par le free jazz et le blues de Dr. John. Enfin, ça, ce sont eux qui le racontent, car si tu écoutes le disque à jeun, tu entends juste du rock psychédélique, de bonne facture certes, mais rien des artistes dont ils disent s'être inspirés. L'accueil critique est assez mitigé, la guitare est jugée trop agressive et la voix de Richard Ashcroft taxée de mystère exotique. Comme beaucoup de disques qui ne trouvent pas tout de suite leur place, il lui faudra attendre 15 ou 20 ans pour qu'ils reprennent des couleurs dans l'histoire de la musique pop anglaise. Aujourd'hui, il est même souvent considéré comme un chef-d'œuvre du rock psychédélique. Voici un court extrait des 2 principaux titres de l'album, Slide Away et Blue. Le succès tout relatif de ces 2 chansons dans les seuls charts indés US leur permet d'être invités au Lollapalooza édition 94 aux côtés des Smashing Pumpkins, Beastie Boys ou encore Nick Cave et ses mauvaises graines. Lollapalooza, c'est ce fameux festival qui s'est tenu au sud de Chicago de 91 à 97 avant d'être relancé en 2003 et qui aujourd'hui fait figure de caricature indé tant il s'est imposé comme l'endroit où il faut être si tu ne veux pas passer pour un crétin. Pour ma part, je crois que l'Américain est un crétin, qu'il ait ou non son entrée pour le Lollapalooza, mais ça n'engage que moi. Bref, comme il fallait s'y attendre, ça se passe moyen pour The Verve. Peter Salisbury, le batteur, est arrêté pour avoir défoncé la chambre dans laquelle il était logé. Quant au chanteur, Richard Ashcroft, il est emmené d'urgence à l'hosto suite à une sévère déshydratation. C'est d'autant plus saugrenu quand on sait la quantité d'alcool que ce grand échalas pouvait se mettre dans le cornet au quotidien. À leur retour, ils s'enferment en studio pour préparer leur 2nd disque, Northern Soul, avec l'ego gonflé à l'hélium si l'on se réfère aux déclarations du chanteur avant de s'enfermer. Ouvrez les guillemets. Notre studio est un véritable cachot. On y est dénué de toute notion de mode, de tout contact extérieur ou de pensée telle que c'est ce que nous devrions faire pour plaire. Nous jouons de la musique qu'on entend dans notre tête, pas celle qu'on peut lire dans les magazines ou entendre à la télévision. Déclaration dangereuse s'il en est, si toutefois le succès n'est pas au rendez-vous. Pumpa, Salupa, Northern Soul est un nouveau désastre commercial. Et pourtant, ils marquent un tournant dans leur musique, et même s'ils vendaient crânement l'idée de ne pas faire de musique à la mode, force est de constater que le rock psychédélique de leur début laisse peu à peu la place à un rock alternatif plus facile, avec de gros clins d'œil appuyés à la bonne grosse bride pop des familles. Le problème de ce genre musical, c'est que les places sont déjà prises. À cette époque, les infumables Blur et Oasis, désolé pour ceux qui adorent, vendent déjà des millions de disques à coups de chansons largement inspirées des 4 gnognons de Liverpool, tandis qu'une fois de plus, The Verve n'obtient pas les faveurs du public. Condamné à ne jamais être reconnu pour leur musique lorsque sont publiés les albums, The Verve devra de nouveau attendre de longues années avant de voir leur nom briller de mille feux dans les classements. En 2006, le New Musical Express, le pendant anglais de Pitchfork, a placé Northern Soul à la 13e place du classement des 100 meilleurs disques britanniques de tous les temps. Pas mal. Petit extrait, History. Ce nouvel échec, ainsi que des dissensions avec le guitariste John McCabe, précipite le départ du chanteur et une première dissolution du groupe, qui dure heureusement peu. La reformation a lieu quelques semaines après, mais cette fois sans le guitariste, remplacé une première fois par Bernard Butler, guitariste de Suède, qui ne reste que quelques jours, puis par un ami d'enfance, Simon Tong, à qui est attribué le mérite d'avoir enseigné à Richard Ashcroft à jouer de la guitare lorsqu'ils étaient ados. Pendant toute l'année 96, le groupe ne fait aucune apparition publique, se contentant de composer encore et encore de nouvelles chansons pour un troisième album. Celui-ci est enregistré à l'été 97, avec un John McCabe finalement réintégré dans le line-up et sort à la fin septembre. Et là, c'est l'explosion. Le titre Bittersweet Symphony devient un ultra-tube planétaire. On parle d'un morceau qui a été vu plus de 800 millions de fois sur YouTube, et qui a obtenu plus de 25 disques de platine, des Grammy et autres prix comme s'il en pleuvait. Considérée par beaucoup comme l'une des plus grandes chansons de tous les temps, elle ne figure néanmoins qu'à la 392e place du classement Rolling Stones des 500 meilleures chansons. Le succès du morceau est en partie dû à la vidéo, au moins aussi légendaire que la chanson, une sorte d'hommage à celle de Massive Attack pour la chanson Unfinished Sympathy. Dans celle de The Verve, on voit le chanteur marcher dans une rue de Londres, Hoxton Street, sans se préoccuper des passants qu'il croise en les bousculant, en en faisant chuter une et en se voyant menacé par d'autres. Bref, le groupe nage enfin dans le bonheur, d'autant que le succès de Bittersweet Symphony tire tout l'album vers le haut. D'autres singles comme The Drugs Don't Work et Lucky Man grimpent elles aussi vers les sommets. The Verve devient incontestablement le groupe de l'année et la chanson est sifflée tous les matins par des centaines de millions d'hommes sous la douche. Que quelqu'un me dise enfin pourquoi on adore tant siffler dans cet endroit-là, nous les mecs. Sauf que je t'ai prévenu au début de l'épisode, je disais, The Verve est un cas dans l'industrie du disque, beaucoup de bonne musique, sinon la voix des Yeux n'en parlerait pas, malheureusement également beaucoup de grosses conneries. Là, je m'en vais t'expliquer leur plus grosse, sois attentif, c'est un poil compliqué. Au début, on a une chanson des Rolling Stones de 1965, The Last Time, en voici un court extrait pour que tu te situes un peu. Ce n'est pas la plus connue, pourtant il s'agit de leur premier numéro 1 au UK, pour une chanson originale, puisque avant celle-ci, les Stones avaient déjà eu deux numéro 1, mais pour des reprises, concrètement It's All Over Now et Little Red Rooster. Là-dessus intervient Andrew Loog Oldham, le manager et producteur du groupe de 63 à 67, un type pour le moins curieux à bien des égards, même si nous, on va se centrer sur un seul d'entre eux. En 1966, il publie The Rolling Stones Songbook, un disque symphonique dans lequel il reprend des chansons des Stones avec son propre orchestre, le Andrew Oldham Orchestra. On peut y entendre par exemple cette version de Satisfaction. Le disque, sans grand intérêt, il faut bien dire, tombe rapidement dans les oubliettes. Comment parvient-il dans les mains de Richard Ashcroft? J'en sais rien. Toujours est-il qu'il devient red dingue de la version qui a été faite de The Last Time, ça donnait ça. Maintenant, écoute bien ce qui suit, ça montre à quel point l'industrie du disque est un nid de vipères et je reste poli. The Verve a donc négocié les droits d'utilisation d'un échantillon de 5 notes du riff de la version orchestrée auprès du détenteur des droits d'auteur de l'enregistrement, Decca Records, en arrivant à un accord avec les auteurs Mick Jagger et Keith Richards, par lequel leur était reversé 50% des royalties de Bittersweet Symphony. Mais ils ont oublié ou ils ont omis d'obtenir l'autorisation d'un autre ancien manager des Rolling Stones, Alan Klein, qui détenait les droits pour les chansons du groupe antérieures à 1970 par le biais de la société ABK Co. Records. Forcément, ce gros salopard s'est réveillé lorsqu'il a vu le succès colossal que rencontrait Bittersweet Symphony. Il a refusé un nouvel accord a posteriori et a exigé 100% des royalties. Suite au procès qui lui a donné raison, non seulement les crédits de la chanson ont été attribués intégralement à Jagger Richards, mais The Verve n'a pas vu un seul centime de royalties pendant plus de 20 ans. Cerise sur le gâteau, la chanson a été vendue plusieurs fois à des marques pour des campagnes publicitaires contre l'avis du groupe qui non seulement ne pouvait s'y opposer, mais en plus ne percevait rien de ces campagnes de pub. Le truc de dingue à se tirer une balle. D'ailleurs, le groupe n'y résistera pas et accepte une courte reformation en 2007 et 8. Ils sont séparés depuis 1999. Depuis cette triste date, Richard Ashcroft a poursuivi une carrière en solo avec plus ou moins de réussite. J'avoue être quand même assez fan de ce gars-là, même si à chaque fois que je le vois dans ses vidéos, je pense à lui faire parvenir des colis avec des trucs à manger dedans, parce qu'il est vraiment émacié, disons. Je te laisse avec son premier single post-The Verve, sorti en 2000, A Song for the Lovers, une chanson que j'ai écoutée en boucle à l'époque. Et même encore aujourd'hui, je peux me la faire à fond les ballons 3 ou 4 fois de suite. Gros fan en fin de compte. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe. Et voilà, that's all folks. Pour me contacter, me dire que vous avez adoré ou pas du tout, mais j'y crois pas. Ou encore suggérer un artiste pour un prochain épisode, écrire à contact@lavoisdessillons.com. Ah, j'oubliais, j'ignore sur quelle plateforme tu écoutes La Voix des Sillons. Sur certaines d'entre elles, comme Apple, Podcast Addict et quelques autres, il est possible de laisser un commentaire. Je veux dire, un bon. Merci, hein.